Retrouvez l'Instant Mickey, la série de podcasts des éditions John Libé, réalisée avec le soutien des laboratoires Galapagos. Dans cet épisode, le docteur Marianne Achuri, gastro-entérologue au CHU de Lille, fait le point sur la prise en charge de la rectocolite hémorragique et nous invite à considérer la maladie dans sa globalité, au-delà du côlon.
Bonjour, je suis le docteur Marianne Achuri, je suis gastro-entérologue au CHU de Lille. Aujourd'hui, dans la rectocolite hémorragique, l'arsenal thérapeutique, les traitements à notre disposition sont de plus en plus nombreux, l'arsenal s'agrandit. On a des traitements de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne. On a différentes classes de médicaments, des immunosuppresseurs, des biothérapies, des petites molécules. Et puis, parmi ces traitements, on a des traitements qui s'injectent par voie intraveineuse, des traitements qui s'injectent par voie sous-cutanée, des traitements qui se prennent par voie orale. Alors, chacun de ces traitements a évidemment ses avantages et ses inconvénients. Alors, ça peut être le délai d'action de la molécule, ça peut être justement son mode d'administration, ça peut être son profil de sécurité, beaucoup d'éléments qui vont être un peu différenciant en fonction de ces différents traitements. Et finalement, aujourd'hui, on a beaucoup de choix, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et parfois, avoir un peu trop de choix, peut-être, rend les décisions plus difficiles, parce qu'on est un peu perdu. On a parfois un peu peur, peut-être, de ne pas faire le meilleur choix, justement, parce qu'il y a plein de possibilités. Alors, c'est important, je pense, du coup, de se reposer un peu les questions sur comment faire des choix. Comment, à notre niveau, en tant que gastro-entérologue, prescripteur de traitement pour un patient avec une rectocolite, avec les outils, les armes actuellement à notre disposition, comment est-ce qu'on peut finalement essayer de proposer une sorte de médecine personnalisée, personnalisée en fonction, bien sûr, de la maladie elle-même, de la rectocolite, mais pas uniquement. Et peut-être surtout une médecine qui va être adaptée au profil du patient lui-même. Autrement dit, comment peut-on proposer une prise en charge, non pas uniquement d'un côlon malade, mais d'un malade dans sa globalité, avec sa maladie inflammatoire, mais aussi les éléments qui lui sont propres. Alors, pour avancer un petit peu dans cette piste de réflexion, quelle évaluation initiale doit-on faire ? Comment finalement bien évaluer le patient au départ pour lui faire la meilleure proposition thérapeutique, pour faire finalement le meilleur choix, ou en tout cas un des meilleurs choix possibles pour le traitement de sa maladie. Alors, quelques pistes et éléments de réflexion que moi je peux partager avec vous. Tout d'abord, bien sûr, quelle est la sévérité, la gravité de sa rectocolite hémorragique ? Et finalement, quel est le degré d'urgence du contrôle de sa poussée ? Parce qu'on sait que certains traitements vont avoir des délais d'action plus ou moins rapides. Donc évidemment, ça va être un point crucial qui là est en lien directement avec la maladie elle-même. On n'hésite pas évidemment à utiliser des scores simples d'évaluation, comme le score de Mayo ou le score de Lichtiger dans les formes les plus sévères, pour ne pas sous-estimer une colite grave qui nécessitera à ce moment-là une prise en charge très rapide. Donc ça, c'est vraiment la décision centrée sur la sévérité de la maladie elle-même et finalement presque indépendamment du patient lui-même. Si on est en dehors du contexte d'une colite aiguë grave, à ce moment-là, ça va être intéressant d'aller se pencher sur le patient lui-même et pas uniquement sur sa colite. Et donc, à mon avis, une réflexion qui est importante et qu'on a de plus en plus aujourd'hui, c'est de se demander si le patient a des comorbidités, des facteurs de risque, autrement dit, est-ce que le patient a un âge avancé ? Est-ce qu'il a un cancer évolutif ou un antécédent de cancer éventuellement assez récent ? Est-ce que le patient a des facteurs de risque, cardiovasculaires en particulier ? Est-ce qu'il est fumeur, obèse, diabétique, par exemple ? Est-ce que le patient a des facteurs de risque de faire des infections, une BPCO, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, un diabète ? Donc là, ça, c'est des éléments qu'on va analyser et qui sont propres aux patients et finalement pas propres à la rectocolite hémorragique elle-même, et qui vont là aussi peut-être nous, aider à décider quel va être le meilleur traitement pour un patient donné en fonction justement de ses comorbidités. Un autre point aussi, alors qui est lié au patient, en tout cas pas lié directement à la maladie digestive, mais est-ce que notre patient a des manifestations extra-digestives, extra-intestinales, des manifestations inflammatoires, articulaires, dermatologiques, ophtalmologiques ou autres? Parce que là, évidemment, on sait qu'on a des médicaments qui ont des effets sur les manifestations extra-digestives, d'autres moins, voire pas du tout. Et donc là aussi, ça va être un élément à prendre en compte pour essayer de faire le meilleur choix thérapeutique. Et puis un dernier point sur lequel je pense que c'est important d'avoir au moins un échange avec le patient au moment de la mise en route d'un traitement. Est-ce qu'il y a un projet parental, un projet de grossesse à court ou moyen terme? Parce que là aussi, on sait que certains médicaments sont aujourd'hui tout à fait validés, y compris au cours de la grossesse. On pourra les utiliser sans problème. D'autres médicaments sont plus problématiques pendant une grossesse. Et à ce moment-là, c'est évidemment des traitements qu'on évitera d'utiliser s'il y a un projet à court terme de parentalité. Alors, si au terme de cette checklist, donc sévérité de la maladie, comorbidité, facteur de risque, manifestation extra-intestinale, projet parental, si au terme de cette checklist, on a encore plusieurs traitements disponibles et possible pour le patient, alors à ce moment-là, je pense que c'est le moment d'avoir un échange directement avec le patient. Alors évidemment, si une fois qu'on a fait cette checklist, on s'aperçoit qu'il y a finalement une seule classe de médicaments qui va convenir au cas du patient, ce n'est pas forcément la peine d'aller lui proposer les autres. Mais si on a encore plusieurs choix disponibles, je pense que là, c'est vraiment utile de les exposer au patient, lui détaillant de manière simple, quelle efficacité on attend de ces différents traitements, leur délai d'action, leur profil de sécurité, évidemment, c'est un point qui est très important pour les malades. Mais aussi, un élément qui est important, c'est le mode d'administration. On a dit, il y a des traitements par voie intraveineuse, il y a des traitements par voie sous-cutanée, il y a des traitements par voie orale. Et finalement, ce mode d'administration, on sait qu'il est important pour le patient, pour son confort, sa qualité de vie, mais il est également important pour l'observance. Or, l'observance, c'est évidemment un élément clé pour la réussite du traitement. Donc, si on a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités de traitement, je pense que c'est important d'avoir cet échange avec le patient. Et par exemple, l'étude ACCEPT 2 avait montré qu'il y avait certains modes d'administration qui étaient franchement plébiscités par les patients, comme par exemple la voie sous-cutanée toutes les 12 ou 8 semaines, ou bien la voie orale en une seule prise quotidienne. La voie orale en deux prises quotidiennes était déjà un peu moins intéressante pour les patients. Donc ça, je pense que c'est des éléments qui sont importants parce que finalement, ce qui va être essentiel, ça va être de laisser aux patients, et pas uniquement aux médecins, de laisser aux patients la liberté de choisir le mode d'administration qui va lui convenir le mieux, en fonction de ses impératifs, de ses inquiétudes aussi, vis-à-vis éventuellement de certains traitements par voie injectable ou pas. Vraiment, là, c'est très variable d'un patient à l'autre, et je pense que c'est un élément qui est très important à recueillir auprès du patient lui-même, parce que c'est probablement la garantie donc, d'une meilleure observance et évidemment, du coup, d'une meilleure efficacité du traitement. Donc, je dirais que c'est ce qui s'approche peut-être aujourd'hui le plus d'une médecine un peu personnalisée, puisque on tient compte bien sûr de la pathologie, sévérité, urgence, vraiment la maladie elle-même. On tient compte du terrain du patient, les comorbidités, les manifestations extra-digestives, etc. Et on tient également compte des préférences du patient, et en particulier des préférences sur le type de traitement et le mode d'administration du traitement. Évidemment, le traitement au cours d'une MIKI, d'une rectocolite, c'est uniquement un moyen, c'est le moyen d'atteindre des objectifs thérapeutiques, comme on dit. Et là aussi, je pense que sur la définition des objectifs, c'est important que ce soit l'objet d'un échange et d'une décision commune entre le médecin et le patient. Quels objectifs, à la fois importants pour le médecin, compte tenu de ses connaissances sur l'évolution de la maladie, mais également par le patient, est-ce qu'il faut se fixer ? C'est un peu ce qui a été défini dans le consensus STRIDE, qui a été mis à jour récemment, donc STRIDE 2. En gros, il y a trois niveaux d'objectifs thérapeutiques. Je pense que c'est ça qu'il faut évoquer avec le patient. Alors, en n'utilisant évidemment pas les termes forcément du consensus lui-même, mais en gros, on a trois niveaux. Le premier niveau, c'est un objectif de contrôle des symptômes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les PRO2. Donc ça, pour le gastro-entérologue, c'est très intuitif. Pour le malade aussi, d'ailleurs, hein, la normalisation du nombre de selles, la disparition du sang dans les selles. Et puis, attention, ne pas oublier d'interroger les patients assez systématiquement sur la question des urgences fécales et des accidents d'incontinence, qui sont souvent passés sous silence hein, par les patients si on ne leur pose pas la question, mais qui, on le sait, sont une source de handicap absolument majeur. Donc ça, c'est le niveau contrôle des symptômes liés à la maladie. Le deuxième niveau, c'est un objectif de contrôle de l'inflammation et donc des marqueurs de l'inflammation, comme par exemple la CRP, la calprotectine fécale, et puis, à plus long terme, la normalisation de l'endoscopie, et puis, qui sait, peut-être un jour, la normalisation même de l'histologie. Donc ça, c'est vraiment l'objectif contrôle strict de l'inflammation. Contrôle des symptômes, contrôle de l'inflammation. Troisième point, et là, qui est bien détaillé également dans le consensus, et qui là, souvent, est peut-être un petit peu moins évident pour le gastro-entérologue, c'est un objectif de retour à une vie normale pour le patient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les PRO1. Un objectif de retour à une vie normale, c'est quoi? C'est la normalisation de la qualité de vie et l'absence de handicap fonctionnel lié à la maladie. Et ça, c'est des objectifs qui sont très importants pour les patients, peut-être parfois un peu plus difficiles à appréhender pour les médecins, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre dans le panier, dans la balance, quand on échange avec le patient. Les traitements aujourd'hui de la rectocolite hémorragique permettent d'atteindre ces objectifs et c'est ça qu'on essaye de se fixer. Et ça, c'est très séduisant pour les patients parce que c'est un objectif qui leur convient, bien sûr. Finalement, si on veut retenir un petit peu l'essentiel, c'est que la définition concertée, partagée avec le patient, à la fois des objectifs thérapeutiques, mais aussi des outils, et donc en particulier des traitements, mais c'est finalement ce qui va s'approcher le plus d'une décision médicale éclairée, partagée, et c'est probablement ce qui va donner les meilleures chances de succès du traitement.
Retrouvez prochainement l'Instant Mickey avec un nouveau podcast sur la décision partagée. Ce programme est soutenu par les laboratoires Galapagos. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication, qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas, ne doivent donc pas être mises en pratique. Le docteur Marianne Achuri déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires AbbVie, Adacit, Amgen, Arena, Biogen, CTMA, Celltrion, Ferring, Fresenius Kabi, Johnson, Mayoli, MSD, Pfizer, Takeda. Une production des éditions John Libbey.